Voici l'heure. C'est l'heure. Cette heure annoncée depuis le début de l'évangile de Jean, quand, à Cana, alors que la noce manquait de vin, Jésus répond à sa mère : Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure. Celle inscrite au premier verset du chapitre 13, au commencement du récit de la Passion que nous avons lu hier. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus aima les siens qui étaient dans ce monde et les aima jusqu'à l'extrême. C'est l'heure du passage. L'heure de passer du monde au Père, c'est l'heure d'une Pâque, le commencement de Pâque. Pour l'évangéliste Jean, la mort de Jésus est ainsi interprétée. L'envoyé retourne vers celui qui l'a envoyé. En cette heure, Pilate s'agite. Il sort du prétoire, il y entre, intérieur, extérieur, vers les grands prêtres et la foule, vers Jésus. Il questionne, il parle à l'un, aux autres, sans recevoir de réponse claire et sans convaincre qui que ce soit. Lui, le gouverneur représentant le maître du monde, l'empereur de Rome, ne prononce qu'une parole sans autorité et sans écho. Lui que Philon d'Alexandrie décrit comme un homme cruel, inflexible et buté, méprisant et colérique, est pris de peur. Celui qui a été amené devant lui représente une étrangeté qu'il ne comprend pas. Celui qui a été amené devant lui ne peut être inscrit dans aucune case, ni selon aucun code du monde de Pilate. Pilate dont les représentations, les repères, les convictions semblent soudain de si peu de poids, comme de la buée, de la fumée, une vanité, une illusion. Pilate fait face au vertige d'un au-delà du monde connu, qui surgit dans la présence de cet homme singulier qui distingue la vérité de la religion et la justice du pouvoir. Un homme qui ne craint ni les armes, ni les outrages, ni la mort. Un homme de liberté et de don. Et en cette heure, Pilate cède. Il livre Jésus à la mort, prolongeant ainsi jusqu'à la croix le geste de Judas. Il fallait bien que la parole de Jésus sur la mort qu'il allait subir se réalisât. Cède-t-il face aux cris de mort, aux menaces des grands prêtres qui s'en sont remis à César ? Cède-t-il devant l'inébranlable liberté de Jésus, devant cette volonté de déposer sa vie, volonté qui surplombe la volonté de ceux qui veulent prendre sa vie? Alors Pilate écrit. Lui dont la parole n'a pas eu de poids, lui dont l'autorité n'a été reconnue ni par les grands prêtres, ni par Jésus. Il grave quelques mots sur un panneau accroché à la croix où Jésus est crucifié. Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Non seulement il l'écrit, mais il veut le faire connaître le plus largement possible. L'inscription est rédigée en trois langues, hébreu, grec, latin, et tout le monde entier, peut la lire. Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Comme si le fait d'écrire conférait à la déclaration la densité qui manquait aux paroles prononcées. Comme si la déclaration d'identité s'inscrivait ainsi dans des formes, une forme plus résistante que celle de l'oralité. L'inscription est contestée, mais Pilate la maintient. Il s'accroche à ce qu'il a écrit plus qu'à ce qu'il avait dit, et c'est son dernier mot. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Lui, le magistrat qui n'a pas prononcé de verdict de jugement, veut-il indiquer ainsi le motif de condamnation, un motif de condamnation? Ou est-ce une manière de rendre aux grands prêtres la monnaie de leur pièce? Ils l'ont manipulé, menacé. Cet écriteau peut représenter une manière de venger l'affront, de mettre en défaut les grands prêtres au lieu même de sa défaite à lui. Ou bien est-ce une manière d'avertissement pour tout prétendant à la royauté sur Israël? L'empereur romain fait et défait les rois, sur Israël comme ailleurs. Toute velléité de contestation de la paix romaine entraîne une répression. Ou encore est-ce une manière de rendre compte d'un bouleversement intérieur éprouvé par le gouverneur? Une manière un peu détournée d'exprimer au moins un doute, doute qu'une légende transformera en conversion de Pilate jusqu'au martyr, la décapitation ordonnée par l'empereur Tibère en personne. Quoi qu'il en soit, ce qu'écrit Pilate, même avec l'obstination de l'écriture, est extrêmement réduit et réducteur, car Pilate reste dans ses catégories habituelles. L'origine de Jésus est indiquée à Nazareth. C'est l'origine géographique, de cette origine géographique de découpage, de territoire, d'invasion, de domination. Cette origine géographique qui fait les mépris, les exclusions, qui fait que tant de vies sont brisées, écrasées, englouties. Roi des Juifs, c'était la première question de Pilate à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Mais cette titulature s'en tient à l'idée mondaine d'un règne de pouvoir, d'injonction, d'intérêt, de corruption, ce que même ni David ni Salomon n'avaient évité. Et c'est cela qui est accroché, cloué sur la croix, au-dessus de Jésus, la définition, une définition d'un homme par un autre. Le pouvoir de définir un homme, ce qui devient toujours prétexte à se débarrasser de lui. Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. L'origine géographique reste silencieuse sur l'origine essentielle, l'origine vitale de Jésus. Origine en Dieu, origine de Dieu. Et le titre manque la dimension véritable et universelle, la vérité du royaume qui n'est pas de ce monde. Mais sur la croix, depuis cette croix, le passage est ouvert de ce monde à la vérité du royaume. Oui, l'heure du passage de Jésus vers le Père, c'est l'heure de la crise des pouvoirs religieux, politiques et personnels. C'est l'heure de la crise des idoles et de la fausse gloire qu'elles procurent. L'heure de la crise des identités qui cloisonnent l'humanité et la hiérarchisent. L'heure venue, cette heure, indique le passage ouvert vers une autre manière d'être vivant, d'être humain dans le monde des humains, vers une autre économie. Économie de dons, de services d'autrui, économie de vie offerte, une économie d'amour jusqu'à l'extrême. Voici l'heure. C'est l'heure. Amen.